La manière dont l'armée a mené cette opération a été quand même extrêmement violente pour les populations civiles. On a poussé des centaines de milliers de gens sur les routes, en plus à la période des récoltes. Et on voit des gens qui sont handicapés ou des gens qui ont besoin d'une dialyse, qui sont en mauvaise santé et qui se retrouvent là au bord des routes, en plus là, dans la saison la plus chaude de l'année. Et ce sont des gens qui viennent de régions de montagne, qui n'ont pas du tout déjà l'habitude de ce climat. Si on continue comme ça, on va vers la catastrophe.
Donc tout ça, oui, cette situation donc est quelque part une bombe à retardement et crée finalement le lit pour des mouvances islamistes radicales.
Totalement. Le conflit assoit à une dimension de classe qui est vraiment évidente dès le début et qui tient aussi à l'histoire de Swat depuis que l'État princier a été intégré au Pakistan en 1969. Il y a de très vieux conflits autour de la terre et à Swat, dès le début, on a vu l'insurrection apparaître dans certaines zones rurales parce que les talibans locaux connaissent très bien leur société et savent ce qui va être mobilisateur dans un lieu donné. Et là, à Swat, ils ont capitalisé sur cette demande de justice sociale que l'on trouve partout, qui est la principale revendication au Pakistan. Et c'est pour ça qu'à Swat, il y avait ce mouvement depuis les années 90 pour le rétablissement de la charia. Charia égale justice sociale. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le soutien des pauvres, évidemment.
On est une fois de plus surpris de l'ingénuité, quelque part, aussi des États-Unis qui ont instigé, quelque part, ce genre de situation.
Là, il y a quand même eu un changement qui explique l'ampleur de l'opération militaire, parce que cette fois, il y a eu un quasi-consensus dans les partis politiques pour soutenir les opérations militaires. Alors que dans les opérations précédentes, l'armée n'avait pas du tout le soutien de la classe politique ni de la société. L'idée la plus répandue était que c'était une armée de mercenaires qui combattait la population pakistanaise pour le compte des Américains. Il y a quand même maintenant une bonne partie de la société qui s'est réveillée et qui dit « c'est notre guerre ». Alors le problème, c'est que maintenant on a toutes ces représailles des talibans, toutes les opérations qu'on a vues, que ce soit à Lahore ou ailleurs, qui sont des opérations ciblées. Ça dure depuis juillet 2007, depuis l'assaut contre la mosquée rouge d'Islamabad, où il y a une guerre qui est déclarée à l'armée en tant qu'institution, à la police, aux forces paramilitaires. Donc frapper Lahore, c'est très symbolique. Beaucoup plus symbolique encore que de frapper Islamabad, parce que c'est Lahore qui est vraiment le cœur du pays. Politiquement, culturellement, c'est là que ça se joue. Ça fait aussi diversion pour obliger l'armée et les paramilitaires à intervenir sur plusieurs fronts.
Et donc la crainte dans d'autres provinces, dans d'autres régions, que le scénario ne se répète.
Oui. Il y a maintenant la crainte au Pendjab très fort, parce que bon, depuis très longtemps, le sud du Pendjab est une région qui est le principal berceau de l'extrémisme religieux. Les madrassas radicales du sud du Pendjab, qui depuis le milieu des années 80 produisent des extrémistes sunnites. Les violences confessionnelles, c'est quand même un phénomène du centre et du sud du Pendjab. Et il y a maintenant un réseau commun entre les militants de zones tribales et ceux du sud du Pendjab. Tout cela se mélange. C'est vraiment une guerre des pauvres contre les riches. Quand on voit la situation économique du Pakistan, qui est même au bord de la banqueroute, le chômage, la pénurie d'électricité, 12-15 heures par jour en plein été. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'eau. À Karachi, on a des émeutes à cause de l'électricité et de l'eau. Donc tout ça est explosif.